Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis accompagné de Croissant et de Knight à la régie. On est en chill, on va parler de deux trucs normalement aujourd'hui. Le premier, c'est... on va parler d'un truc, mais de ses répercussions dans deux formats. On va parler de Living Legend, des divers héros qui se font assassiner par les points de Living Legend les uns à la suite des autres. Donc on va d'abord parler de Islander en construit, mais surtout de son absence. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il n'y ait plus de Ice, qu'est-ce qu'on en pense, et que ça. Et ensuite, on parlera probablement de l'hécatombe en Blitz, de tous les héros qui tombent comme des mouches, et de ce que ça veut dire. Et je vais pouvoir, encore une fois, dire à quel point j'aime le Blitz, et que c'est vraiment le meilleur format du jeu.
Mais avant Press ça... X for doubt.
Ouais. Fort, fort. Mais avant ça, bonjour Croissant, comment vas-tu?
Ça va et toi, Pidipiou?
Ça va, ça va. Est-ce que tu as joué aux cartes cette semaine?
Oui, j'ai joué aux cartes cette semaine. J'ai
non,
fait.
Vas-y, raconte.
Si, j'ai fait une armorie et un skirmish.
Énorme.
Je vais d'abord parler du skirmish qui était celui de dimanche à Ucro. Où, c'était du CD. En fait, j'y suis allé, genre vraiment. J'y suis allé parce que, petit 1, j'aime bien Thomas. Petit 2, j'aime bien Ucro. Petit 3, j'aime bien Poison qui était là-bas. Petit 4, j'avais rien à faire de mon dimanche. Du coup, je me suis fait bon.
Même pas les techniques.
On va y aller. Voilà, Nightcrash peut aller se faire des mots que je ne pourrais pas répéter sur ce canal de diffusion. Oui, si j'avais pu gagner un Techlocor random, let's go, tu vois, parce que la carte est trop belle. Mais en fait, c'était surtout que je suis pas du tout assez bon en limité, encore plus sur cette extension. Et genre, le scellé, de mon point de vue, il y a une trop grande part de variance. Quand en plus t'es pas bon, enfin tu vois genre ça fait trop de facteurs en fait. Et bref, donc j'y suis allé quand même puisque j'étais en mode bar, on va chill et tout, tu vois. Et puis en plus en ce moment je trouve que je fais une toute petite parenthèse, mais ça me permet d'en parler là. La fréquentation des événements est en train un peu de baisser et il y a plusieurs facteurs possibles pour ça. C'est pas la vidéo pour en parler là, mais du coup j'essaye aussi dès que je peux d'aller en event, en tout cas dans les boutiques que j'ai envie de voir continuer à faire du fab, donc Play-In et Uchronize, parce que c'est aussi nous, des fois, se forçant, entre guillemets, à aller aux événements, même si on n'a pas forcément super envie, qu'on peut maintenir un niveau de fréquentation qui donne envie aux boutiques de continuer à faire des choses, et notamment Uchronize, qui, genre, pour le jeu, a fait cette année des trucs de fou, de mon point de vue, avec ses ligues, avec des win-a-box, ou genre, tu vois les lots qu'il donne, t'es limite en mode il est en train de perdre de l'argent sur sa journée. Enfin, genre vraiment, il se donne pour la commu et pour faire vivre le jeu, tu vois. Et des fois, j'en parle un petit peu avec lui et il y a des trucs qui vont pas forcément être conduits et tout. Je donnerai pas plus de détails, puisque c'est pas mode d'annoncer ou de pas annoncer des choses, mais je suis un peu en mode c'est dommage s'il y a une perte de vitesse du jeu parce que nous, on se force plus, entre guillemets, à aller à des événements des fois. Et que du coup les boutiques font moins de choses, etc. Mais bref, je referme ma parenthèse. Allez en événement, même si des fois vous avez un petit peu la flemme, vous hésitez, allez-y parce que c'est comme ça qu'on continue à avoir des super événements et que la communauté continue à vivre. Du coup, le skirmish, j'ouvre un pool. Alors clairement, tu vois, à côté de moi, t'as des gens, ils ouvrent plein d'items, ils ouvrent plein d'évo et tout. Moi, je regarde mon pool, je suis en mode, j'ai deux boom grenades rouges et un redback protocole rouge, mais genre, c'est tout en termes d'items. Donc, c'est très dur de m'orienter sur Dash. J'ai deux Evo, littéralement deux Evo, et ils sont nuls. Donc, je suis en mode, je pars pas sur Teclo. Donc, un peu par défaut, je suis parti sur Max. Mais, j'avais beaucoup de Quickfire et de, je crois que c'était Gaz Up ou... Non, c'était... Je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui remet un compteur sur un Hyperdriver. Donc, genre...
C'est Recharge.
Ouais, merci. Donc, j'avais des arguments, entre guillemets, à aller sur Max, mais en même temps, j'avais pas vraiment d'arguments, parce que j'avais aucun Chain Ender. Enfin, genre, j'avais vraiment un pool qui était, genre, pas très bon. Il était pas horrible, parce que j'avais des bonnes rouges et tout, mais il était vraiment pas très bon. Sur ma première game, je joue contre Xavier, qui a gagné le tournoi, qui joue Dashio, je crois. Enfin, en tout cas, en CD, parce qu'après, il y a eu un draft. Et je fais un énorme misplay, c'est-à-dire qu'à un moment, je prends des dégâts pour jouer ma full main. Et en gros, ma full main, c'est jouer un truc à 11 go again into Banksy. Sauf que pour Banksy, il faut avoir crank.
Oui, et t'as pas crank.
Sauf que pour avoir crank, il faut avoir les ressources pour faire un hyperdriver ou jouer un item avec crank de sa main. En main, j'ai une boom grenade rouge. Et donc le play, ça doit être tous les jours, si je connais mieux les cartes, parce que j'avais jamais joué Max. C'est boom, grenade rouge, attaque à 11, go again, Banksy. Et j'avais les ressources pour et tout. Parce que j'avais des Driver, bref. Sauf que là, dans ma tête, je suis en mode, bah, je peux Banksy dans tous les cas, en fait, parce que j'aurais boosté. Et du coup, j'ai juste à Arsenal la boom grenade rouge. Je présente déjà 14. Il était déjà à ce moment-là, je crois, à 13 ou un truc comme ça. Et j'ai ma boom grenade rouge pour le tour d'après, pour renforcer des blocs.
Et en fait, non.
Et en fait, bah, il prend les 11. Donc, il passe à, je sais plus, 4, enfin, je sais plus, ou 3.
Pourquoi t'as pas joué ta boom pour Banksy, justement?
Parce que la jouer après pour Banksy, je pense que c'était trop perdant comme play. Mais peut-être que j'aurais encore dû le faire à ce moment-là. Enfin bref, donc en gros, il prend pas, enfin il prend tout, il bloque pas. On a vu après, il aurait dû bloquer au moins une partie parce qu'il avait des bons blocs à faire et genre il était probablement devant dans la game s'il bloquait. Mais si j'avais mis la boom grenade, la situation aurait été beaucoup plus compliquée pour lui. Et derrière, j'aurais pu Banksy. Donc je pense honnêtement, je pense que cet énorme misplay me fait perdre la game. Genre, je pense que
ton tour est exceptionnel si tu joues la boom avant, parce que du coup ton attaque à 11 elle est létale, donc il est obligé d'en bloquer une grosse partie. Into le Banksy met un compteur sur la boom, genre
exactement, genre si elle a pas proc, enfin vraiment genre le tour était très bien. Et du coup je pense que ce gros misplay me fait perdre la game, peut-être pas parce que en fait lui fait un misplay aussi, donc la game aurait été différente, mais je pense que ça contribue grandement au fait que je perde. Happens. La deuxième, je joue contre Robin qui jouait Max aussi, je crois. Et en fait, il miscompte sa pitch stack à un moment d'un et du coup, il peut. En fait, il doit bloquer avec une carte de plus sur mon tour parce que moi, je fais bien mes maths. Et lui, du coup, il lui manque une ressource pour faire son truc qui me tuait. Et du coup, genre, je le fatigue ou je le tue juste après, je sais plus. Donc, je la gagne, mais sur le fil. Et honnêtement, bah, pareil, je pense que. Enfin, c'est plus Robin qui la perd que moi qui la gagne. La 3, je joue contre Sébastien, je crois, et je la perds parce que il a une bonne sortie et j'arrive jamais à revenir dans la game. Mais honnêtement, la game était genre pas intéressante. C'était vraiment genre un peu comme si on faisait du blitz, tu vois. C'était 1 pour 4, go again, 1 pour 4, go again, 1 pour 5. Enfin, genre, c'était rompiche, mais heureusement, c'était contre Poison et du coup, on a bien rigolé. Et après j'ai joué contre Romain en dernière round et j'ai réussi grâce à un setup de tour avec double overpower dans le tour dont un qui faisait proc une grenade rouge à présenter perfect létal contre un Teclo qui genre au début du tour était à genre attends je lui ai mis combien je lui ai mis 7, il devait être à genre 10 ou 11 au début du tour et je l'ai kill. Et en fait, c'était sur ma pitch stack, genre au deuxième cycle et tout. Et celui-là, j'étais très content de moi, parce que bah, pour le coup, celle-là, c'est vraiment moi qui la gagne, entre guillemets. Mais bref, je passe énormément de temps, comme d'hab, alors que c'est la partie pas intéressante de ma semaine. Parce que du coup, je suis le seul de deux qui bubble et qui passe pas, parce qu'on était 14 et j'avais perdu la première round. Donc je fais top 9. Je les regarde drafter après, c'était marrant et tout. Voilà, il y avait 15 ticlos autour de la table avec 8 joueurs. Bien joué à eux. Mais du coup, la partie intéressante de ma semaine, là où je me suis beaucoup plus amusé, c'était mercredi, l'Armory à Uchronize.
Que j'ai fait aussi, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Mais ce qui risque de se reproduire, d'ailleurs.
Que PDPew a fait, et donc il en parlera de son point de vue après. Mais du coup, je jouais cadeau, et je jouais cadeau avec des petites techs, voilà, on teste des choses en ce moment.
Ah, il m'a envoyé la liste avant. Ouais. Cadeau, du coup, qu'est-ce que j'ai fait des cartes qui bloquent, ouais, c'est
genre il y a des défenses réactions, il y a des sigils et tout, voilà. Et du coup la 1, je joue contre Faille, je gagne. En fait c'est marrant parce que la game, en gros genre, je suis mais des kilomètres devant dans la game, genre vraiment j'ai deux ou trois tours d'avance, je crois en termes de clock et de timing, genre deux tours. Ma main whiff un tour, donc je peux pas partir en combo. Du coup, j'ai plus qu'un tour d'avance. Ma main est correcte, mais il me manque un peu d'infos. Du coup, je pars à nouveau pas. Du coup, on revient à égalité en termes de clock. Et du coup, en fait, à égalité, Faille repasse devant, sauf que il a un très mauvais tour, ce qui fait que du coup, j'ai un tour de plus que, en fait, à cause de mes deux mauvaises mains, j'aurais pas dû avoir. Et sur ce tour de plus, je pars en combo et je gagne. Et du coup, c'était assez marrant parce que c'était vraiment genre, je dois la gagner 1000 fois, puis je dois la gagner genre 100 fois, puis je dois plus la gagner, puis je la regagne à nouveau 1000 fois. Donc c'était un peu des montagnes russes. Derrière en round 2, et si vous voulez voir cette game, elle est en stream, donc vous pouvez aller la retrouver sur le ah Twitch ouais, TV de Uchronis. J'ai joué contre une Dashio et je l'ai fatigué.
C'était moi la Dashio. Première fois que je joue le deck, ou genre c'est pas moi littéralement qui joue le deck, parce que d'habitude on le jouait, mais c'était Croissant qui me disait quoi. Et du coup, je me suis fait fatigue comme un bouffon là.
Alors après, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur tes setups, t'en reparleras, mais sur tes setups, à la fin, j'ai les déréacts au bon moment pour cover des trucs et tout. Donc, j'ai eu genre beaucoup de chance sur la fin parce que t'as eu une main qui était horrible et qui me redonne de la tempo, qui me permet d'arsenal une déréact. Et du coup, derrière, j'ai un cycle de 2 ou 3 tours, je crois, avec une déréact en arsenal où je peux couvrir des dominates et genre ça me permet de maintenir les derniers HP. Et puis après c'était marrant parce que du coup à la fin de la game genre Pipu il a 3 cartes en main et il est en mode je peux pas te tuer parce que sa main ne me tue pas et moi je suis en mode tu vas attendre que je fasse une perfect stack ou pas et il fait non je te la concede.
Alors on me va dire c'est bon.
Et du coup on a économisé.
On est arrivé à l'étape où soit je tendais ma main, soit il se retournait, il commençait à se lébran pépère dans son coin à faire sa stack là et après il faisait tiens. Je faisais ah ouais, super, génial.
88. Round 3 derrière, je joue contre une Islander. Il y avait deux joueurs d'Islander, Virgile et Olivier, qui étaient en farewell et baroud d'honneur pour leur héros. Je joue contre Virgile et je le redis là parce que je veux le dire le plus possible. Au tout début dans le match-up, Virgile il faisait n'importe quoi et je gagnais hyper facilement, que ce soit en blitz ou en CC. Et à force de le jouer et même lui de jouer aussi le deck et tout, il s'est beaucoup amélioré. Et là, il fait vraiment très très peu, voire pas du tout d'erreur dans le match-up. Ce qui fait que du coup, le match-up redevient ce qu'il est censé être, c'est-à-dire si moi je joue parfaitement, je le gagne. Si je fais des erreurs, je le perds.
J'étais à côté. Moi, j'avais fini ma game, qui était vite déroulée, et je me mets à côté de lui. Et là, je vois qu'on arrive au moment. Vas-y, les points de vie, ils ont pas beaucoup bougé. Il y a 3 énergies potions des deux côtés. T'as 1000 trucs sur le board. Et là, je vois Croissant qui pioche sa main de 4 cartes, puis qui tourne la tête en mode. Mais t'es pas censé être là, toi.
C'est pas...
Et là, je suis en mode, dommage, la stack est foirée, il y avait un tome dans la main.
En fait, c'est trop marrant parce qu'en ce moment, je réussis mes stacks contre tout le monde, sauf contre Islander. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, happens. Et en fait, du coup, donc, la game, du coup, je la perds. Alors qu'en plus, enfin vraiment, pareil, c'est une game où jusqu'au moment où ma stack est mauvaise, où je pars pour essayer de la réparer et où je me trompe, j'étais genre ultra devant parce que genre j'étais à 27 points de vie, j'étais à genre du coup un tour de ma stack au lieu d'être à 0 tour de ma stack, enfin vraiment j'étais trop bien dans la game, tu vois, parce que faut savoir que dans cette game j'ai résolu 3 sigils et 3 Tomb of Yendal de l'arsenal, 2 pour plus 5 HP, 1 pour plus 4 HP.
C'est vrai que, Virgile parlait moldave, hein. Il était en mode il a gagné 17 points de vie là.
Vraiment un moment, en fait, dites-vous, genre Virgile, il m'attaque et il me fait des spells toute la game, tu vois. Et en moment, genre, je suis à en gros un tour de ma stack et on regarde les HP et je suis à 27. Et je suis en mode. On chill. Et bon, voilà. Et du coup, en fait, comme je disais, comme Virgile, lui, n'a pas fait d'erreur. Le fait que je rate mon tour lui a redonné énormément de tempo et lui a permis de créer en fait, un timing où il m'a tué, en fait.
Oui, il t'a forcé à... Enfin, il a ouvert une fenêtre, quoi.
En fait, c'est ça. En fait,
là
genre,
où
en gros...
plus, genre bloquer ou genre pop-off, là, il a fait bloc, chacal, et t'as fait...
En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je pars. Du coup, pour partir, ce qui est une erreur parce que ma stack est pas au bon endroit, et du coup, pour genre pas faire grand-chose... Je prends les 7 dégâts de E-Strike, donc je passe à 20, alors que normalement, genre juste, je mettais 2 cartes devant et on chillait. Et du coup, lui, derrière, j'ai pas de carte en main, donc il a un free tour. Sur son free tour, enfin, du coup, il joue son tour normal. Et du coup, son tour normal, quand moi, j'ai du coup mes 4 cartes en main, mais que j'ai fucked up ma stack parce que j'ai fait des activations de canaux, donc que je peux pas partir parce qu'il faut que j'en rebuild une, ce qui va me prendre genre 2 ou 3 tours, ou peut-être 4 tours. Est-ce que je peux encore faire à ce moment-là, tu vois? Sauf que comme il a deux Incendio Steel en on-board, il fait un Nighter Ice Vein rouge, fuse, parce que du coup, il a plus de toute sa main. Il m'arrache ma main. J'ai encore deux potes on-board lui aussi. Du coup, je suis en mode, je peux chill. Et du coup, à mon tour, et c'est là où je fais une erreur, il me reste une bleue en main. Et comme je veux faire ma stack, je pitch pour Kano. Pour genre, forcer les choses. Et j'aurais juste dû passer. Et du coup, bah, à nouveau, je fais une erreur. Et en fait, il en profite très bien parce que du coup, il déclenche. Et en fait, il déclenche. Et oui, grâce à ses hippos, il a une source pour jouer son Ice Bolt. Parce que du coup, j'avais plus de cartes en main. Et du coup, il me tue. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je crois que j'avais repris un peu de dégâts. Et du coup, genre, j'étais à une dizaine. Et en fait, il me tue parce que j'ai plus de ressources. Et en fait, il fait Moon et Ice Bolt avant qu'il y ait les hippos. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, super bien joué de sa part. Vraiment 100% mérité. Parce que c'est un match-up où. Enfin, des deux côtés, c'est entre guillemets très simple de faire des erreurs. Et là, il en a pas fait. Si, je crois qu'il en a fait une à un moment, mais qui n'était pas genre importante. Et dernière game, je joue contre Olivier. Du coup, j'ai tapé les deux Islanders. J'étais très content. Puis en plus, c'est des joueurs que j'adore, donc j'aime trop jouer contre eux. Et là, contre Olivier, on a fait une game qui était super belle. Genre, à un moment, je suis à, je sais pas, 4 tours de ma stack. Donc, on n'est pas du tout au moment où je pars. Et je fais un truc. Et il y a un channel qui arrive. Et du coup, on réfléchit tous les deux pendant genre 5 minutes. Ah ok, qu'est-ce qu'on fait en réponse au channel? Genre, est-ce qu'on joue des spells? Est-ce qu'on fait des trucs et tout? Et vraiment, genre, il y avait des sigils qui partaient de mon côté, des trucs et tout. Il y avait des trucs en stack, c'était trop bien comme game. Et je finis par la gagner parce que je me retrompe encore dans ma stack, mais d'une manière réparable. Et du coup, en fait, il y a un tour où genre, il a ses 4 cartes en main, il n'a pas d'arsenal, donc je sais que je suis free. Et j'ai littéralement pitché 12 bleus pendant mon tour. J'ai fait des trucs. Genre, j'ai joué tout.
Je crois que j'ai vu ta pitch stack. Et je tiens, au bout d'un moment, je suis en mode. Mais il pitch des cartes pour pitcher des cartes ou
en fait, un plan derrière En fait, comme j'avais fait ma stack, du coup, je retrouve l'ordre. Et en fait, du coup, genre, mes canaux me donnaient les tomes que j'aurais dû jouer sur son tour pour avoir une stack qui tuait. Et du coup, genre, je fais juste plein de trucs pendant son tour. Du coup, je vide toute sa main. Et comme il est à 16, en fait, pendant son tour, il a genre une bleue en main. Et du coup, juste, je le tue. Parce que je lui ai fait cramer ses potes, je lui ai fait cramer sa main et tout, et genre le tour était trop gros. Et du coup, en fait, genre, j'ai pas besoin d'une grosse stack, j'ai juste besoin de genre résoudre un wildfire, un spell, un blazing ou un truc comme ça, et enfin, même pas, tu vois. Et du coup, genre, juste je kill. Mais super belle game, et du coup, bah, j'étais très content parce que ma liste a plutôt marché comme je voulais, et je pense que la seule game que je perds, c'est une game que je perds bah, genre par ma faute, entre guillemets. Et du coup, c'était très cool. Voilà. Okay. Et toi, Pidgeview, parce que du coup, tu as fait une armory aussi cette semaine.
Bah ouais. Bah en fait, ça me manque tellement de jouer aux cartes, et à Fab pour être précis, et surtout en construit en fait, que je me suis dit, eh vas-y. D'habitude, pour moi, aller à Uchronie, ça veut dire rentrer à la maison à 2h du matin, me bagarrer avec le RERC et les bus surtout qui le remplacent. Et du coup, je faisais un peu une croix dessus en mode, bah pff, non, c'est pas tenable et tout. Et en fait, comme je fais rien d'autre de mes semaines, je me suis dit, ok, allez, vas-y, pour le mois de décembre, on va se déterre. Alors, il y a Squeezie and Floof qui me donne envie de me déterre, mais il y a aussi le fait que j'ai envie de jouer, tout simplement. Et en l'occurrence, comme j'ai envie de changer un petit peu de dromaille, je me suis mis à jouer Dashio, Dio Brando.
Parce que je vends bien mes decks.
Bah, c'est ouais. Ça, je l'ai joué quand même le deck. On était tous les deux d'accord pour dire que c'était un aggro un peu dégène à la Braillard, sauf qu'elle n'a pas de point de Living Legend, sauf que tu joues 5 cartes ou 9 cartes et que tu peux faire des trucs un peu marrants. Et surtout. Elle a le potentiel de pop-off qu'avait Braillard, mais que je ne retrouve pas chez Faille. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien le fait que tu as beaucoup de décisions à prendre tout le temps. Genre, c'est pas évident les tours que tu fais avec Dash. Et du coup, c'est cool parce que là, je suis encore dans la phase d'apprentissage où je ne regarde pas trop ce que fait mon adversaire, mais je me concentre surtout sur ce que je fais moi pour essayer de ne pas faire n'importe quoi. À force de jouer, je pense que j'arriverai à faire des tours à peu près corrects et à peu près à faire des trucs sympas, mais du coup, voilà. Et du coup, c'était ma première armory avec le deck. Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il me manquait une partie non négligeable du deck. Du coup, j'ai demandé à Croissant et à Knight de ramener toutes les cartes qui me manquaient. Du coup, j'ai affronté. Première ronde, j'ai affronté une Dorinthea qui était novice. Du coup, j'ai passé plus de temps à lui expliquer le jeu et comment son deck marchait qu'à l'affronter. Du coup, j'ai gagné parce que bah, il savait pas à quoi faire en fait contre moi et du coup il avait un peu de mal avec ses tours parce qu'il commençait à jouer le deck seulement, donc c'était normal. Du coup, je gagne. Ensuite, j'ai affronté bah, Kano du coup, Croissant à la télévision là, qui m'a fatigué comme jamais. Parce qu'en fait, le truc c'est que si ça avait été un Kano, un random Kano j'aurais mis le side, genre on va défendre un peu d'arcane, mais on veut aggro comme un cochon. Le truc, c'est que je savais que c'était un deck défensif. Donc j'ai mis tout mon side en mode genre, bah, je sais que c'est un deck défensif, donc je vais mettre les machins qui battent à la fatigue. Mais je pense que j'étais pas encore assez bon avec le deck pour jouer correctement le plan fatigue. Du coup, j'ai perdu. Je me suis fait fatiguer comme jamais. Il avait des défenses-réactions quand j'ai... En fait, quand j'ai à peu près commencé à réfléchir à ce que je voulais faire, bah lui, il avait des défenses-réactions, du coup, c'était perdu. Ensuite, j'ai affronté Azalea. Donc, j'étais en mode, au secours, le match-up est infernal. En plus, mon adversaire a vraiment aligné, genre, Red in the Ledger, Codex of Frailty, Codex of Frailty, Red in the Ledger, Codex of Frailty. J'étais en mode, ouais, ça fait beaucoup, là, quand même. Mais j'ai réussi à gagner parce qu'en fait, bah, en fait, le deck bloque incroyablement bien. Genre, les Adaptive Plating, ça bloque. Oh, ça bloque comme jamais. Voilà, du coup, j'ai pu bloquer des... Il y a même une carte que j'aurais dû prendre, mais que j'ai choisi de bloquer. Genre un Remorseless, j'aurais dû le prendre, parce qu'en fait, il m'aurait fait genre 8 dégâts. Et à la fin de la partie, il me restait genre 18 points de vie, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, j'étais large. Mais du coup, j'arrive à gagner, ce qui était inattendu. J'étais en mode, bah j'ai gagné. Super. Mais je sais mais pas trop comment ni pourquoi, mais je suis en mode, genre, les platings m'ont sauvé les miches, et c'était très très bien.
Je pense qu'en vrai, la liste que t'as jouée, qui a un peu plus de setup et qui peut un peu plus facilement jouer des tours à genre 2-3 cartes que à 4-5, est mieux aussi contre genre Azalea.
Bah, c'est ce que j'ai senti parce qu'en fait, la liste était, elle souffrait pas d'avoir bloqué avec une carte. Genre, ça m'arrivait, ouais. Ça m'est arrivé plein de fois d'être en mode, bah en fait, je peux bloquer avec une carte de ma main et c'est pas très grave. Parce qu'en fait, j'aurais quand même les ressources et les deux cartes à jouer et le coup de pistolet. Donc en fait, je suis en mode, bah ça va. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que bloquer avec des cartes de ma main signifie souvent que je vais avoir du mal à jouer les items du dessus de mon deck. Quand il y en a. Parce que du coup, j'ai pas trop la flexibilité d'être en mode, bah, je sais pas trop ce qui va se passer et tout. Et autant quand je sais, je peux bloquer en conséquence, mais quand je sais pas et que ça se révèle sur les boosts, j'ai moins d'opportunités. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je séquence et que je pitch intelligemment parce qu'il faut, faire attention. Parce qu'en fait, si j'ai besoin d'activer Foundry Earth pour jouer un item, bah du coup il aurait fallu que je pitch avant pour avoir la ressource qui flotte, enfin, du coup j'apprends plein de trucs en jouant le deck, sûr que t'as Lichard aussi. Troisième ronde, qu'est-ce que j'affronte,
bah c'était troisième ronde, c'était Azalea.
Ah oui, quatrième. Donc quatrième ronde, j'affronte Vincent et je prends un tour exceptionnel de sa part qui me fait super mal, je tombe très 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 bas. Et je suis en mode, bon, vas-y, j'ai envie de tout prendre pour voir qu'est-ce que le deck fait. Et en fait, je suis sauvé, mais alors vraiment sauvé. Je la mérite vraiment pas, cette game, en plus. Je suis sauvé par un plus wave harpoon, genre deux tours plus tard, qui enlève la seule attaque de la main de mon adversaire, et qui du coup lui empêche de m'attaquer. Donc en fait, il fait un tour à blanc. Et en fait, bah, du coup, j'ai la tempo, parce qu'en fait, il a pris des dégâts en passant, et il a pas pu m'attaquer. Et du coup, il me menace pas, et du coup, je garde ma main complète, et en fait, bah, c'est gagné, du coup. Mais voilà, c'est très sympa. En plus, j'ai mangé des nouilles. Du coup, j'étais heureux. Voilà. Vraiment heureux de manger des nouilles. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on enregistre mardi. Donc, demain soir, il y a de nouveau une armoire. Du coup, je vais y aller de nouveau avec Dash. Et je vais encore manger
des nouilles.
Exactement. Et voilà, donc c'est bien marrant. Et puis, samedi, du coup, j'ai fait le skirmish à play-in. On était 8. C'était un scellé, 3 rondes. On n'a pas fait de top 8 parce qu'on n'était pas assez. J'ai ouvert un pool nul à chier. Mais alors, nul à chier. Comme le tien, en fait. C'est-à-dire seulement deux Evo, pas d'item, pas de Chain Ender. Et je suis en mode, bah, vas-y, on va jouer Teclo. Si j'arrive à arracher une victoire, je suis le meilleur. J'ai réussi à arracher une victoire contre un Teclo qui était 1000 fois mieux que le mien. Mais en fait, j'étais en mode, bah, je ne peux pas gagner contre Teclo à la fatigue parce que j'ai pas assez d'Evo et que j'ai pas assez de setup. Donc on va aggro les Teclo. Donc j'avais mis le script rouge, tu sais, le gant rouge là. En fait, j'avais le gant rouge.
Polarizing, je sais plus quoi.
Ouais, Polarizing Reversal, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc, j'avais le gant rouge et j'avais le script jaune. Et mon plan, c'était, ok, je vais faire genre 2-3 tours avec ces trucs-là. Et non, ça gratte des points et ça suffit. Et ça a suffi. Miraculeusement. On notera quand même que j'ai joué Teclo avec une moyenne de un demi-Evo pendant toute la partie sur mes 3 games. Hein. C'est-à-dire que quand j'arrivais à équiper un Evo, j'étais en mode, OMG, mon pistolet marche. Mais souvent, j'en équipais qu'un seul. Du coup, évidemment, j'ai perdu les deux games d'après contre des Teclo qui avaient 3 Evo, en fait. Et voilà. Donc, j'ai quand même été tiré au sort pour avoir un Teclo Corps. Donc, j'étais très content parce que j'ai gagné le Teclo Corps. Puis après, j'ai été voir Croissant. J'ai fait, tu veux un Teclo Corps? Et voilà. Donc, c'était cool. Mais c'était un skirmish en chill. il n'y avait pas grand-chose à raconter.
Voilà. Ça me fait penser, à propos de belles cartes et de moi vouloir des belles cartes, on a établi dans l'épisode précédent que le loot, c'était hyper important.
C'est vrai que le loot,
c'est très important. Surtout lorsque Pinipio est là. Et du coup, hier au skirmish, j'ai loot aussi. J'ai acheté deux des Figment Marvel qui me manquent encore, puisque je suis maintenant au nombre de 4. En fait, j'ai eu Triomphe dans une boîte. J'ai échangé pendant les Worlds Protection à une personne du nom de Gabi qui va me le passer dès qu'on se recroise et qui est genre trop trop beau. Le Figment, hein. Gabi aussi, mais ça paraît plus pertinent que je parle de la beauté du Figment. Et là, du coup, j'ai craqué, et parce que du coup, il m'en manque 4 sur les 6 que je joue, et 6 en tout. Et j'ai acheté Judgment, qui est genre.
Bah oui, mais c'est joli. Je l'ai montré, il est trop beau.
Genre, hein. Il est incroyable. Mais autant l'Archangel que le côté Figment.
Moi, parce que l'Archangel est vraiment genre exceptionnel.
Ouais. En fait, les Archangels qui sont genre plus réalistes, je suis moins fan. Et il y a des Figment que j'aime moins aussi. Mais genre, le Judgment, je trouve incroyable.
Le jugement, il est trop réussi. Le Ravage, il est très réussi. Le côté ange, surtout.
Ouais.
Et le Érudition, évidemment, très réussi.
Par contre, tu vois, le Rebirth, genre, je suis fan du côté Figment. L'ange, je n'aime pas du tout.
Moi, je déteste l'ange, mais j'aime bien le Figment. Le Figment, je trouve cool.
Moi aussi. Le Figment, je le trouve trop beau. Je suis pareil. Mais
l'ange, c'est vraiment genre fantasy générique sur 20. Je suis en mode, vas-y.
Mais je l'ai quand même acheté parce que c'est un des Figment qu'on joue. Voilà.
Avec, on s'amuse, mais.
Ouais. Donc j'ai obtenu deux Figment en plus, le Judgment et le Reverse. Et du coup, je suis maintenant à 4 sur les 6 qu'il me faut pour le deck.
Je sais que moi, mon deck Dash, il y a quasiment aucune carte foil. La seule carte foil du deck, c'est un Teclocor en Arcane Rising.
Parce que t'as pas encore réussi à trade.
J'ai pas réussi à avoir un régular. Et sinon, tout le deck est régular. Ce qui n'est pas désagréable. Et en plus, j'ai des cartes en français, donc c'est marrant. Mais du coup, ça fait bizarre de passer d'un deck vraiment genre full foil. Parce que, en plus, à l'armory, j'ai prêté mon deck à un joueur qui était là de passage, mon Dromai. Et au début, je lui prête le deck en mode, fais-y attention quand même, parce que c'est mon deck et fais gaffe, quoi. Et à un moment, je vais le voir après ma game et il fait, mais j'avais pas compris, fais gaffe, mais en fait, tout brille, en fait. Et à un moment, je pioche ma main, je fais, ah, mais donc là, il y a E-Strike et CNC Foil. Ah ouais.
Ouais.
Mais bon, d'accord, fais attention, quoi.
Enfin, voilà.
Finalement, problème de prouveur.
On
a parlé de l'armory pendant 1000 ans. Du coup, on va pouvoir parler de ce qui n'aura plus lieu, c'est-à-dire affronter les Islanders.
Oui.
Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour recontextualiser, cette discussion et ce débat a déjà été traité, si on peut dire ça comme ça, par Tales of Alex et Yuki Liebender sur la chaîne. Ça a été partagé sur le Discord France. Je vous invite à aller écouter la chaîne, la vidéo, et ce que fait le reste de la chaîne, parce que le contenu est de bonne qualité. Mais c'est en anglais, donc seulement les personnes anglophones pourront comprendre. Mais du coup, sont abordées les questions de qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il n'y a plus de deck Ice ? Qu'est-ce qui se passe maintenant on ne risque plus de prendre un random frostbite au détour d'une attaque ou un channel Lake Frigid qui fait que tout ton tour marche pas. Il va se passer quoi, Croissant ? Réponds.
Ah, ok. let's go. c'est compliqué de répondre tel quel parce que un des trucs qui est très probable et qui va être une trend. Où on peut être assez certain, c'est que les aggros vont être plus greedy sur leur courbe de ressources et que donc les héros qui ne justifiaient un plus grand compte de bleu uniquement parce que Ice était dans la méta vont probablement changer et réduire un peu ce nombre-là et du coup avoir plus de rouge et donc des mains overall qui sont meilleures en termes de power level parce que augmenter le nombre de bleus, c'est aussi augmenter le nombre de mains où tu as deux bleus. C'est des probas. Du coup, je sais que, par exemple, beaucoup de gens sur Faille étaient en mode, dans la méta, quand il y avait Islander, c'était 18 bleus. Là, les listes et les gens qui en parlent repassent plus déjà autour des 15 ou des choses comme ça. C'est pas un énorme changement, mais en même temps, c'est un gros changement. Donc ça, c'est la première trend que je pense qu'on va observer. C'est beaucoup pour les agros qui peuvent être définis comme des redliners ou proches de redliners, c'est-à-dire des decks comme Dromayan Press, des decks comme Fai, qui sont des decks dont la courbe de mana pour un tour, en fait, enfin, le nombre de ressources dont ils ont besoin pour faire un tour optimal peut être de 0 ou de 1, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui coûtent 0. Un deck comme Dash ou Dash.io, par exemple, c'est des decks qui vont peut-être réduire un petit peu leur bleu, mais probablement pas tant que ça, parce que c'est des decks qui ont besoin de bleu pour jouer leur tour. Mmh. Donc c'est une traîne qu'on va voir surtout sur les aggros qui sont ce qu'on appelle des redliners, donc des aggros qui, en dehors d'éventuelles taxes liées au Frostbite ou à l'Ice de manière générale, genre Channel Lake Frigid, etc., sont des decks qui n'aiment pas beaucoup pitcher. La deuxième élément pour moi de traîne un petit peu, mais qui là est pas forcément dans nécessairement le comment dire le deck building ou quoi, mais c'est que la disruption va devenir beaucoup plus proactive et agressive. C'est-à-dire que les seuls decks qui seront capables a priori d'être disruptifs encore sont probablement Azalea et Bravo. Alors, il y a un petit peu des choses comme Riptide, les assassins aussi, mais pareil, ça reste plutôt via des onit et de la proactivité. À ceci près que Riptide a les trappes, mais Riptide, c'est un peu une parenthèse que genre on laisse fermer parce que c'est pas un héros qui est vraiment méta relevant actuellement.
Pour le moment, même si est en mode OMG, le deck est trop fort maintenant qu'il n'y a plus de taxes.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Même si le départ d'Islander est plutôt une bonne chose pour le deck. Et du coup, ça change des choses aussi parce que, en fait, et ça c'était surtout lié à Islander principalement, et un petit peu à Hold'em quand il était encore là, c'était des decks qui avaient la capacité de te disrupt au milieu de ton tour. Via des instants, via la capacité de défense-réaction d'Hold'em, via les bleus Ice de l'arsenal d'Islander en instant sur son tour, via la carte Blizzard, qui étaient des éléments que Lexi n'avait pas trop, ou ne jouait pas trop, en tout cas sur les dernières listes avant qu'elle, enfin sur toute sa période plutôt dominante où c'était plutôt des listes Fuseless. Là où Azalea, par exemple, et je ne dis pas que la disruption est meilleure ou moins forte, mais c'est des disruptions qu'on voit arriver. C'est-à-dire que Azalea, elle doit en général prendre des dégâts pour jouer une main qui va te proposer des dégâts et de la disruption. Donc des éléments de disruption tels quels vont être beaucoup moins présents parce que c'était très lié à l'Ice. Des cartes comme Winter's Bite, comme Arctique Incarcération, tu vois, qui étaient des cartes qui genre juste avaient un effet disruptif. Pas qui mettaient des dégâts, juste avaient un effet disruptif.
Et surtout, à la différence d'Islander, l'essentiel de la disruption qu'on va voir sera très lisible. C'est-à-dire qu'en fait, à l'exception des trappes de Riptide qui vont avoir un effet pendant le tour parce qu'ils sont joués, en fait, Azalea, quand elle va te disrupt, elle te le dit. Parce qu'en fait, elle joue le Red in the Ledger. Elle est en mode, je t'attaque en fait. Et si ça te touche au prochain tour, c'est la merde. Alors qu'Islander, tu savais jamais trop à quoi t'attendre. Tu devais toujours jouer un peu dans l'expectative, être en mode, je vais jouer mon tour de telle manière, mais je devrais m'adapter si elle me met un random Frostbite ou si elle joue un Blizzard et tout. Et du coup, j'ai l'impression qu'on revient beaucoup plus à une façon de jouer, notamment les decks aggro, qui accorde de l'importance au bloc d'équipement. Oui. Comme on y accordait tard l'époque avant qu'Islander soit aussi dominante. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où Skeletta et les blocs d'équipement chez les Runeblade étaient joués juste parce que ça permettait d'absorber des cripplings ou les Red in the Ledger, des machins comme ça. Et je pense qu'on va revenir à ce raisonnement-là où en fait les decks aggro vont être en mode en fait, si je dois bloquer, ce sera avant tout les on-hit qu'Islander m'aurait avant fait taxer en ressources. Maintenant, on me le fait taxer en blocs d'équipement. Et du coup, on va peut-être voir aussi un retour des défenses-réactions chez les decks aggro, qui vont en fait accorder de l'importance à cette capacité à bloquer un dominate s'il est trop pertinent. Et en fait, moi, je pense surtout que Il y a un truc aussi, c'est il va falloir que les gens perdent leur habitude de jouer comme s'ils allaient être gênés. C'est-à-dire que t'avais ça contre Islander, c'est on avait pris l'habitude de réfléchir à nos tours pour qu'ils soient les plus optimaux possibles, pour qu'il y ait le moins d'angles morts. Mais en vrai, maintenant, on n'a plus peur des angles morts. Tu peux, genre, mal séquencer ton tour en pitchant la mauvaise carte d'abord et en pitchant l'autre derrière. Genre, c'est pas grave, en fait. Genre, ça n'a pas d'importance. Et du coup, ça donne une façon de jouer qui est beaucoup plus. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on est revenu à Hearthstone, si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où on était dans une période du jeu où il était tout à fait commun d'avoir de l'interaction entre les deux joueurs qui ne soit pas liée uniquement à la défense et en fait au mat qu'il y a sur les cartes, machin et tout. Et du coup, je trouve ça cool qu'on revienne à cette version du jeu un petit peu plus lisible, dans le sens où il n'y a pas d'éléments cachés, pas de bluff, pas de trucs comme ça. Et en même temps, j'aimais bien ce moment du jeu où il pouvait se passer des choses et où en fait c'était la responsabilité de l'attaquant de faire attention à comment est-ce qu'il souhaitait agencer son tour et tout. Et du coup, moi j'aime bien. Après, il y a un truc aussi qui, là, parce que là on parle des trucs qui touchent tous les decks de manière générale, mais moi ce que je me dis, c'est surtout que Islander était un prédateur pour certains decks de la méta. Maintenant qu'elle n'est plus là, est-ce qu'on s'attend à ce que ces decks reviennent? Est-ce qu'ils étaient vraiment partis? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, en fait, du coup, donc déjà pour finir sur la disruption globale et l'absence de ice dans la méta, le fait que ce soit plus du tout représenté, c'est qu'effectivement, donc en termes de deck building, il y a le nombre de bleus qui va sûrement descendre, notamment de certains decks, mais il y a aussi, comme tu le disais, les blocs d'équipement qui redeviennent une manière claire d'interagir avec la disruption qui peut être proposée, les défenses-réactions aussi, donc c'est des manières aussi d'approcher ces match-up-là qui sont plus simples, on va dire. Et c'est de la disruption, comme je disais, qui est proactive. C'est-à-dire que c'est des decks qui ont, entre guillemets, besoin de jouer pour te disrupt. Là où Islander, en fait, genre, elle bloquait avec toute sa main et gardait un channel, bah, en fait, elle repiochait sa main pour pouvoir jouer le channel pendant ton tour, mais au-delà du fait qu'elle le jouait pendant ton tour, c'est qu'en fait, elle le jouait une fois qu'elle avait repioché sa main. Là où, pour faire le même genre de disruption, Azalea, bah, elle a besoin de garder au minimum deux cartes, puisque bah, Red in the Ledger, plus la carte avec laquelle tu vas pitcher pour load Red in the Ledger et avec laquelle tu vas la tirer. Plus ou moins, il y a des petits points de détail, parce que tu niques, parce que Death Dealer te fait piocher, parce que machin. Mais globalement, il faut garder des cartes. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est des decks qui vont devoir prendre des dégâts pour appliquer leur disruption. Beaucoup plus et beaucoup plus souvent que Islander n'avait besoin de le faire.
C'est vrai.
Et deuxièmement, c'est, bah, comme on le disait, en fait, une disruption qui est claire, qui est visible et avec laquelle il est plus facile d'interagir. Je vais faire un parallèle parce que on en parle souvent et que je connais très bien le héros. Kano. Kano, c'est un héros qui ne t'attaque pas de la manière classique, puisqu'il ne t'attaque pas avec des dégâts physiques, il t'attaque avec des dégâts d'arcane. Et d'ailleurs, il ne t'attaque pas, il joue des cartes qui ont comme effet de te proposer des dégâts d'arcane. Kano, c'est un deck avec lequel il est difficile d'interagir. C'est possible, je suis le premier à le dire, il y a des cartes pour. Mais il faut faire des concessions, il faut mettre de l'arcane barrière, potentiellement augmenter son compte de bleu. Et tu n'es pas sûr que tu vas avoir les bleus au bon moment, et tu n'es pas sûr que ceci, et des fois ça suffit pas, etc. Là, par exemple, contre Islander, de la même manière, même si tu augmentais ton nombre de bleus, il y a des tours où tu prenais channel, tu n'avais pas pioché tes deux bleus par main que tu espérais, tu ne peux pas jouer sous le channel, ça arrête ton tour. Voilà. Contre un Red in the Ledger, si tu l'as considéré lors de ta préparation avec des blocs d'équipement, notamment aussi un peu des défenses-réactions, mais de défenses-réactions, tu as quand même besoin de les piocher aussi. Donc il y a quand même cette part un petit peu de variance. Mais si tu l'as préparé avec des blocs d'équipement, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement interagir avec, puisque c'est une manière de faire que tu peux anticiper et que tu peux préparer dès le départ sur la table, en fait. Et du coup, ça va rendre l'interaction peut-être plus agréable, pas forcément plus facile à gérer, parce que un Red in the Ledger Dominate, ça peut
Et
toujours
plus
battre un aggro,
lisible.
mais et surtout, du coup, comme plus lisible, plus agréable à vivre et à jouer pour les personnes à la table, notamment les personnes qui reçoivent la disruption. parce que il y avait aussi, et c'est le point, je pense, un des points les plus importants, il y avait une frustration de beaucoup de gens dans la communauté, notamment vis-à-vis de Islander, mais de manière plus générale sur le talent Ice, qui, il y avait vraiment une frustration qui commençait à grandir, parce que tu ne pouvais pas te préparer au channel qui allait arriver, parce que tu ne savais pas quand ça allait être, parce que tu ne savais pas à quoi t'attendre, parce que tu ne sais pas autour de quoi jouer, parce que ça arrive au milieu du tour, parce que machin. Et du coup, en fait, ça bloquait vraiment des séquences de jeu. Là où Red in the Ledger, ça va bloquer des séquences de jeu aussi, mais comme tu le vois arriver, tu sais que ta séquence va être bloquée et tu peux mieux interagir et faire fonctionner ton tour d'une autre manière quand même. Tu n'es pas engagé dans un plan de jeu que tu te fais interrompre.
À l'exception, c'est très différent. Où la disruption est imposée parce qu'elle a dominate, si tu prends un Red in the Ledger, tu as le choix entre mettre deux cartes devant et en fait réduire ton tour comme l'aurait fait Red in the Ledger, mais te préserver 6 points de vie, par exemple, ou 5 points de vie en l'occurrence, ou alors être en mode je mets du bloc d'équipement parce que je veux garder toute ma main et du coup tu mets les points ailleurs, etc. Dans tous les cas, la décision de est-ce que je subis la disrupt ou pas, elle est entre les mains de celui qui est attaqué. Alors que contre Islander, mais contre les Ice en instant, en fait, de manière générale, la décision de est-ce que c'est la merde ou pas, elle était entre les mains de celui qui est attaqué. Et du coup, c'est différent parce que, en fait, c'est. Il y a un truc où, genre, t'es en train de recevoir de la disruption, tu peux interagir avec, alors que dans l'autre sens, Islander, tu jouais tes cartes et elle décidait si elle allait interagir ou pas.
Ça
ça fait une posture un peu différente et qui du coup la rend plus agréable, un petit peu moins frustrante aussi. Mais je trouve qu'un Red in the Ledger dominate est pas fondamentalement moins frustrant qu'un channel Lake Frigid en instant. Par contre, il est clair que le Red in the Ledger dominate est plus lisible, il est plus facile de s'y préparer d'une certaine manière. En tout cas, c'est plus accessible de s'y préparer pour le contre-carré.
Et puis encore une fois, en fait, quand tu prends le Red in the Ledger, tu prends tes décisions en fonction du Red in the Ledger, de ta main, de ton équipement disponible, etc. Des fois, tu vas subir la décision, parce que tu n'en auras qu'une possible, c'est-à-dire prendre le hit et pas faire grand-chose. Mais tu n'as pas commis un plan de jeu que tu te fais interrompre. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. En fait, la disruption arrive avant que tu lances ton play. Et des fois, elle va l'empêcher, comme l'aurait empêché un channel. Mais dans le cas d'un channel, tu lances ton play. Potentiellement, tu perds des ressources, etc. Et tu te fais interrompre au milieu. Et ça, c'est... déjà, c'était très fort, mais c'est un côté aussi qui pouvait être frustrant pour beaucoup de gens. Et de ce point de vue-là, je pense que le fait que Ice disparaisse de la méta, en tout cas pour le moment, parce que ce sera théoriquement, probablement sous une autre forme, mais ce sera théoriquement amené à revenir, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je pense aussi que le fait qu'on perde un des decks qui crée les match-ups les plus interactifs et, de mon point de vue, parmi les match-ups les plus skill-dépendantes du jeu, j'ai une partie de moi qui est un peu déçue et qui me dit que c'est dommage. Alors, on le savait, mais c'est surtout dommage parce que je ne sais pas si on va retrouver le même niveau d'interaction qu'Islander obtenait et forçait un peu à obtenir dans ses games. Et ça, tu vois, c'est l'avis de pas mal de joueurs et de joueuses pro, même des gens qui n'aimaient pas forcément Islander, que les games avec ou contre Islander font partie des games les plus intéressantes et les plus skill-intensives qu'il ou elle avait joué.
Moi, je pense que c'est un truc, genre, je pense qu'ils vont revenir à un personnage qui joue, entre guillemets, de la même manière, mais qui provoque justement ces games ultra-interactives où tu réagis beaucoup à ce que fait ton adversaire et inversement. Mais peut-être que ça prendra une autre forme. Parce qu'en réalité, tu vois, Islander avait un peu ce côté genre continuité de prisme, la première, mais en mieux. Et je pense que s'il doit y avoir un nouveau héros, ce sera peut-être genre continuité d'Islander, mais en différent. Moins frustrant pour l'adversaire, peut-être tout aussi interactif. Comme on peut voir Dromai, qui est la suite de la prisme originale. Avec les dragons qui sont la suite de Spectra et tout et tout.
Ouais.
Mais ce qui m'inquiète un peu, entre guillemets, c'est que Islander étant absent, Il y a un deck qui, selon moi, en ressort grandi, c'est Bravo, parce que Islander était un de ses pires match-up, et parce que Islander en fait permettait à Bravo d'être préservé quand même de quelques match-ups vraiment très désagréables. Maintenant qu'il n'y a plus Islander, Bravo, bah, en fait, a un de ses pires match-up qui s'en est allé, peut se concentrer sur les match-ups qui le mettaient en difficulté, et faire un peu plus n'importe quoi. Les ninjas vont revenir en force, parce qu'ils n'avaient aucune raison d'être... ils ont aucune raison d'être mauvais, en fait. Genre, Katsu, par exemple, va redevenir exceptionnel, si ça ne l'était pas déjà, mais c'était un peu derrière Islander. Et par contre, Dromai, à mon avis, va... so long. À mon avis, Dromai n'est pas prêt de regagner des points de Living Legend. Sauf, bah, elle va en gagner, bien sûr, mais...
Bah,
je sais pas, je pense qu'elle sera moins impressionnante que...
En fait, je sais pas, parce que... Alors, même si, du coup, les ninjas vont pouvoir avoir des slots, le match-up de Dromai était plus si pire que ça contre les ninjas, de la bouche de beaucoup de très bons joueurs ou joueuses Dromai, notamment, par exemple, Mara Faris. Là, je parle de la version Empress de Dromai, ou de la version un peu mixte, parce que maintenant, avec les tomes, il y a plus vraiment de version Empress et Big Dragon, il y a une version un peu mix, et il y a une version très défensive, chelou, avec 15 bleus. Je dis chelou, mais c'est pas négatif, c'est celle que je jouerais si je jouais Dromai. Hein. C'est juste que c'est probablement pas la meilleure, à part sur un fil de très particulier, et du coup, voilà. En fait, le truc, c'est que si le match-up ninja est pas si horrible, et que tu peux récupérer des slots de side pour encore plus potentiellement le gérer. Que à côté, contre Bravo qui veut tenter de te fatiguer ou quoi, t'as des très bonnes armes sur les dernières extensions, notamment la dose de Chromaille par exemple. Après, si Bravo essaye de t'aggro, c'est plus compliqué. Mais tu vois, en fait, je pense que...
Un problème, mais...
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense que Dromaille est moins bonne dans la méta qui arrive que dans la précédente. Je pense aussi que même si Islander checkait quand même un petit peu faille, on a vu qu'il y en avait quand même un certain nombre. Il y avait déjà beaucoup de Bravo, même dans la méta d'avant. Et je pense que Dromai n'était pas genre si one-sided que ça contre Islander, au point d'en faire genre...
Non, j'ai jamais dit
oui,
ça.
Oui. Oui. Ah non, je sais que tu ne l'as pas dit, je parle de manière générale. Et du coup, ça fait que, en fait, genre, on pourrait avoir tendance à croire que la méta a genre ultra shift et que genre maintenant elle est totalement dégueulasse pour Dromai, mais en fait genre Dromai c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck de la méta d'avant, pour une raison. Ça n'a pas bougé, parce que le power level du deck est toujours le même. Tom, c'est toujours une carte complètement busto. Les dragons, c'est toujours des cartes qui font de la value de fou. Genre t'as toujours des choses qui sont hyper pertinentes et hyper valables pour le deck, et dans la méta d'avant elle croisait déjà des ninjas, elle croisait déjà des Bravo, elle croisait des Islanders qui n'étaient pas le match-up le plus free du monde. Et t'avais probablement moins d'Azalea dans la méta d'avant que tu peux en avoir maintenant, alors que le match-up est plutôt pour Dromai, même si, pareil, un peu comme Dromai contre Ninja, Azalea contre Dromai, c'est beaucoup moins pire qu'avant. Et du coup, en fait, bah, on se retrouve un peu dans cette situation où Dromai est proche, enfin de plus en plus proche d'avoir des 50-50 partout, de ce que j'entends, par rapport à un moment où elle était assez polarisée, comme le sont les illusionnistes en général, tout en étant un deck qui a des très bonnes cartes et en termes de power level est parmi un des meilleurs du field. Donc, on se retrouve dans un spot où je pense que Dromai va continuer à performer et à gagner des tournois, juste parce que ça reste un très bon deck et qu'il ne va pas y avoir genre 1000 fois plus de failles et de Katsu qu'il y avait avant. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas.
Moi, mon contre-argument, ce n'est pas qu'il y aura plus de ninjas ou qu'il y aura plus de gardiens ou ce genre de choses, mais plutôt que ces decks-là, qui avant accordaient des slots en side contre Islander avec des bleus supplémentaires, avec de l'interaction par rapport aux Frostex, avec des respites, des machins, des trucs, n'ont plus besoin de toutes ces cartes-là et libèrent donc la place naturellement pour le prochain deck, celui qui est censé leur péter la gueule maintenant. Et le prochain deck, c'est Dromai. Et Dromai est un deck qui souffre, et je l'ai déjà dit et je le répéterai, je pense, jusqu'à ce que les gens soient d'accord ou pas, d'ailleurs, m'en fous. C'est un deck qui souffre énormément du side de ton adversaire. C'est-à-dire que, par exemple, les gardiens, là, au Worlds et un peu avant, commençaient à jouer des out-muscle, Je pense que les Dromas, ils sont juste pas prêts à prendre des out muscle de partout, en fait. Parce que Zilus Belting, c'est la meilleure carte de Bravo contre Dromai, et bah maintenant, il en joue presque 12, s'il a vraiment envie de tech. Donc en fait, moi je vois moins un deck qui est en difficulté par rapport au héros qu'il va affronter, plutôt par rapport au side que ce héros va pouvoir ramener pour affronter Dromai. Et moi, ce qui m'ennuie, mais ça m'ennuie pas vraiment, c'est pour ça que je suis pas sûr d'Ashio aussi, c'est que je pense que un peu comme Kano souffrirait d'être attendu, Dromai va souffrir d'être attendu, mais sauf que Dromai elle a le tome, donc elle peut faire n'importe quoi, ce que Kano ne peut pas forcément faire. Enfin, tu vois mon raisonnement ?
Je vois totalement.
La merde, c'est plutôt. Il va falloir que Dromai se bouge le hook pour s'adapter à une méta qui s'adapte à elle-même, et ça va refaire cette espèce de va-et-vient en permanence.
Alors, je vois totalement. Et je suis globalement d'accord. Mais j'ai deux mini contre-arguments pour nuancer peut-être un peu genre.
En fait, balance et après on passe au blitz.
En fait, t'as nuancé mon propos, je nuance le tien et après on passe au blitz. En gros, premièrement, Dromai était déjà perçu comme un des decks dominants et un des decks les plus attendus au Worlds ou sur des méta d'avant. Et c'était déjà un deck qui était a priori avec une cible dans son dos. Peut-être moins grande que maintenant, je suis d'accord. Peut-être plus grande, parce que là, il y a des gens qui disent que Dromai est out parce que les ninjas sont là. Donc, je ne suis pas sûr que les gens vont beaucoup plus tech contre Dromai que c'était déjà le cas. Sûrement un peu plus, parce qu'ils ont de la place qui se libère. Mais Dromai était déjà un des decks contre lesquels ils techaient, parce que c'était déjà un des decks qui était attendu et perçu comme un des meilleurs decks. La deuxième chose, c'est que Dromai, de son côté aussi, récupère des slots. Parce qu'elle avait des slots qui étaient contre Islander, potentiellement des Temai, ce genre de choses. Potentiellement, genre des Soundcover qui n'ont plus forcément besoin d'être là, ou des Respite s'il y en avait, ou peut-être genre les 3 bleus de plus qu'il y avait qu'on peut enlever, etc. Et je ne connais pas assez bien les listes de Dromai actuellement pour savoir à quel point elle récupère des slots, et ces slots peuvent être utilisés différemment. Mais je pense que l'argument valable pour un est un peu valable pour l'autre aussi. Dans une moindre mesure, parce que je pense que il y a des decks qui libèrent vraiment plus de place et qui ont des spots qui peuvent être beaucoup plus impactants contre Dromai que Dromai contre eux. Mais je pense que l'argument est valable entre guillemets un peu pour tout le monde. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que on a vu une Dromai être en top 4, si je dis pas de bêtises, peut-être top 8, mais top 4 je crois, du Realm Games Invitational, là, le truc de qui a eu lieu ce week-end. Le tournoi à 20K sur invitation avec principalement des gros joueurs connus, etc. Et le top 8, si je dis pas de bêtises, c'était une Levia, un Bravo, deux Dash, un Boost et un qui était plus contrôle, un Kano, une Dromai et une Azalea, je crois, et un Bolting, ouais. Et du coup, tu vois, Dromai a déjà, entre guillemets, déjà fait un top 8 sur un tournoi où il y avait genre un gros niveau, c'était stacké, et quand t'as 20K à la clé, enfin, c'est pas tout à fait 20K parce que c'est... Genre, c'est 10K et des 40 en dessous, je pense, ou un truc comme ça. Ouais. Mais genre, c'est un tournoi sur lequel, genre, t'y vas pas comme un clown non plus, tu vois. Et je crois que la personne qui a fait top 4 ou top 8, c'était celle qui avait fait top 4 au Worlds sur Dromai, justement.
Non, sur le 20K, c'est Mara Faris.
Ah, c'est peut-être sur le 10K, alors.
Non plus.
Ou alors... Ah non, c'est... Non, c'est... Pardon, c'est... C'est la game que Peter gagne en stream le jour 2 à genre 8-2 ou 9-2, je crois. Un truc comme ça. Donc, il y avait une autre personne sur Dromai dans les hautes tables. Donc je pense que Dromai genre, va être moins la méta et va être moins forte et représentée qu'avant le départ d'Islander. Mais je pense que le deck va continuer à faire des résultats et à être pertinent. Et oui. Le fait qu'on parle de Bolting fait que je dis juste un tout petit truc en plus, qu'on n'a pas trop évoqué par rapport à Islander. Enfin, que tu as évoqué sur le fait que Islander gatekeepait des decks entiers, au-delà même de la mécanique d'Ice qui gérait des aggros et tout. Et des decks comme Bolting, par exemple, sont des decks qui profitent énormément du départ d'Islander, parce que c'est des decks qui, de mon point de vue, ont un power level qui est genre pas très loin du haut de la table, comme beaucoup de decks en fait, mais qui sont pas forcément des decks qui sont envisagés ou très explorés par la communauté et par les joueurs pros. Mais Bolting, c'est un deck qui a reçu plusieurs vagues de support, qui a des très bonnes cartes maintenant, et qui est un deck qui est capable, en termes de power level, de rivaliser ou d'être proche du haut du panier et des decks tiers 1. Ce qui faisait que c'était genre vraiment pas une bonne idée d'apporter un deck qui est genre un petit peu en dessous du tier 1 en termes de power level, c'est quand le tier 1, c'est des mauvais match-up. Et quant à Azalea, théoriquement Bravo, qui de ce que j'entendais est plutôt... Alors, ça change un peu, mais plutôt historiquement un match-up un peu défavorable pour Bolt-in. Islander, qui est un des top decks, Dromai, qui est jouable maintenant, mais qui n'est pas non plus le match-up que tu as envie le plus de voir, bah, ça peut être compliqué. Par contre, historiquement, la version combo Bolt-in est plutôt favorable contre Fai, contre Katsu, contre Dash, qui sont des decks qui ont du mal à bloquer efficacement la combo et qui, en général, perdent trop de tempo et d'écart de points de vie sur ces tours-là. Bah, si la méta ressemble à Fai, Katsu, Dash, avec un peu de Bravo et d'Azalea qui traînent, et genre un peu de Dromai aussi, bah, Bolt-in devient un deck qui, certes, est moins bon, probablement en termes de power level, que tous les decks que je viens de citer, mais qui a un match-up favorable, voire très favorable, contre genre deux ou trois d'entre eux, et un match-up qui est plutôt OK et jouable contre les trois autres. Bah ça devient intéressant par rapport à genre avoir un match-up jouable contre 3 ou 4 d'entre eux et un extrêmement mauvais match-up contre le dernier. Bah la méta elle est beaucoup plus sympa, et c'est un peu pareil pour Riptide, et il y a plusieurs decks comme ça qui du coup vont revoir un peu le goût du jour et peut-être avoir des gens qui vont un peu plus les explorer, parce que c'est des decks qui se faisaient complètement gatekeep par Islander et qui avaient vraiment un pourcentage de win rate compte qui était très proche de zéro. Et comme Islander était un deck très présent dans la méta, pas juste un deck qui existait, mais un deck très présent dans la méta, ces decks-là avaient du mal à exister. Alors, il y a encore Dromai qui gatekeep pas mal de choses aussi, mais comme on l'a dit, Dromai risque de moins être là. Et si, quand tu te fais gatekeep par Dromai, ton deck est bon contre les ninjas, bah, la méta a l'air de plutôt bouger en ta faveur qu'en ta défaveur avec le départ d'Islander. Donc tous ces trucs-là vont être à voir aussi, mais ça va être sympa de voir des trucs être réexplorés, tels que bah, Levia, pour moi, c'est un peu similaire aussi. Levia, c'est un deck qui n'est pas forcément très bien armé contre Islander. Bah, là, on voit que le premier tournoi sans Islander, ou un des premiers sans Islander, Levia et Bolt-in en top 8, c'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé voir arriver au Worlds ou même sur un Battle.net ou un Calling il y a encore 2 mois. Quoi.
C'est vrai.
Et du coup, ça fait très plaisir à voir parce que ça va probablement débloquer des choses sur ces decks qui sont à un power level 1.5, 2 grand maximum, mais qui se retrouvent maintenant dans une méta qui leur est beaucoup plus favorable. Et donc, ils peuvent être explorés. Et ce n'est pas les decks... Genre, Bolt-in et Levia ne vont pas devenir les decks tier 1 de la prochaine méta. Mais... c'est des decks pour les gens qui ont envie de les jouer, qui savent bien les jouer, qui peuvent maintenant réellement exister et ne pas être vus comme des mauvais choix compétitifs.
Mmh. Et c'est cool. Je trouve ça marrant que la personne qui joue Bolt-in à l'Invitational 20K, là, c'est Yuki Lee. Là.
Ouais.
Et Yuki Lee a joué Islander pour gatekeeper les Bolt-in et maintenant elle joue Bolt-in pour les Islander. Exceptionnel. Bon, sur ce. Je te propose qu'on passe, peut-être vite fait, ou peut-être qu'on se penchera un petit peu plus, sur les héros qui se sont fait oblitérer par la saison de Skirmish qui a lieu et qui n'est pas encore terminée. Puisque, bah, on l'a parlé dans un podcast, ils ont changé le nombre de points accordés par les Skirmish, et sauf qu'en fait, le nombre de Skirmish a aussi beaucoup augmenté. Du coup, il y en a eu partout en Blitz, parce que le Blitz, c'est le format du Skirmish avec le limité. Et du coup, nous avons 4 héros tombés au champ d'honneur. Nous avons, bah, c'était attendu, Chain, qui a Living Legend à la vitesse de l'éclair. Dès la première semaine, il était parti. On a aussi eu Kano qui l'a suivi, pas très longtemps après. D'ailleurs, rip Kano, hein, Sage Kano. Je n'ai plus de deck en Blitz, du coup, c'est super. Ensuite, on a Kasai qui l'a suivi pas très longtemps après. Pas rip Kasai, parce que Kasai, bon, deck de ses morts, hein. Je le jouais, mais c'était vraiment un deck infernal. Et le dernier héros qui est tombé récemment, genre ce week-end, c'est Ira, donc Ira OG du Blitz qui s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on en pense du Blitz maintenant qu'il n'y a plus aucun héros marrant ?
Bah, alors.
Non, c'est pas vrai, mais vas-y.
Il y a encore plein de héros marrants.
Ouais, mais je me rends compte que j'aime pas le blitz. Du coup,
Ouais, bah.
je suis un peu. En fait, autant le format, je le trouvais cool parce qu'il avait un peu ce côté bac à sable où tu fais des trucs un peu marrants avec des héros qui sont toujours légaux et tu peux t'amuser un petit peu. Autant là, il y a beaucoup des héros que j'apprécie à jouer qui ne sont plus légaux, qui sont plus légaux du coup. Et du coup, je suis un peu en mode genre, bah en fait, si je veux jouer d'autres choses, j'aurais un peu. Pour le moment, tant que la méta, ce sera pas. En fait, je sais ce qui m'ennuie. C'est que la prisme OG est toujours légale en Blitz, par exemple. Qu'en fait, il y a des héros qui ont construit, ont quitté le format. Et où le construit est rentré dans une espèce de nouvelle ère où il n'y a plus de Arya, il n'y a plus de Monarque ou presque. On arrive au moment où le power level max, c'est Uprising et on sait qu'il est plus bas que les éditions précédentes. Alors qu'en Blitz, bah, pas du tout, hein. Donc. T'as toujours des héros de ces morts qui se baladent. Tu peux toujours avoir un Reinhardt qui te one-tap, parce qu'en fait, le problème du Blitz, c'est les 20 points de vie. T'as toujours Vincent qui va probablement faire des dingueries, etc. Et genre, du coup, je suis en mode. Bah, t'as un format un peu la flemme. Genre, en fait, Crucible of War avait amené des trucs sympas par l'époque. Et en fait, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu d'extension qui réfléchit au Blitz. Du coup, bah, ça a un peu ce côté genre format collatéral, genre il y a des trucs qui sortent pour le construit, et en fait c'est pété en blitz, mais pff, le blitz on s'en fout, c'est que pour le skirmish. Mais il y a quand même pas mal d'affect de la part des héros, et enfin des joueurs par rapport aux héros. Genre moi par exemple j'aimais bien Kano en blitz, mais je jouerais jamais en construit. Toi Croissant, t'es évidemment sage que Kano s'en aille. Des gens qui aimaient bien jouer Kassai, des gens qui avaient fait des trucs avec Ira peuvent plus le jouer. Les gens qui tenaient à Chain et c'était genre le dernier endroit où ils pouvaient le jouer, bah du coup maintenant ils peuvent plus.
En vrai, je suis d'accord avec tout ça. Et en
Ouais.
même temps,
Et en même temps,
bah
c'est bien.
déjà, en vrai, je suis pas si sage que ça de Kano parce que bah, j'adorais le jouer, mais je le joue aussi en CC, contrairement à toi. Du coup, je peux juste toujours le jouer en CC. Et
Oui.
faut avouer qu'en Blitz, bah, genre des fois,
C'est
ça
un peu
ressemblait
fumé quand
juste
même.
à rien parce que c'était trop broken. En fait, je pense que premier postulat de base, tant qu'ils ne réfléchissent pas à une manière d'équilibrer le Blitz en tant que format, le Blitz ne sera jamais équilibré. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est les mêmes cartes que le CC, avec les mêmes attaques, les mêmes power level, les mêmes capacités de héros, sauf qu'on a 20 points de vie au lieu de 40. Donc forcément, ça crée des grosses disparités, et notamment quand il y a un gros tour, en général, c'est très dur de revenir de ce gros tour-là. On en parlait d'ailleurs avec, avec Thomas du Chronis au Skirmish avant-hier. On a des petites idées, tu vois, et par exemple, on se disait, toutes les communes et rares, surtout celles qui existent en trois couleurs, bon, on banne les rouges. Hop, déjà, tu vois, ça fait un power level qui est peut-être un peu moindre.
Ouais.
Genre, il y a des trucs qui pourraient être intéressants aussi, c'est ban un certain, et par un certain, j'entends un grand nombre de légendaires. Parce que pareil, ça aiderait aussi à limiter le power level de certains decks. Parce que là, Kano, il est plus là, mais le prochain sorcier qui sort, bah, il y a l'empereur encore, mais genre le prochain vrai sorcier qui sort, il rejoue Striders, et genre, bah,
Ouais,
Striders,
c'est la
sera toujours aussi
petite.
broken, tu vois. Parce que, enfin, genre, c'est toujours un extrateur, nous presque. Donc en fait, t'as un certain nombre de choses qui sont fondamentalement broken, mais broken pas au sens de fort, au sens de cassé. Genre vraiment juste crack, hop, c'est cassé dans le format Blitz. Et du coup, je pense que genre là, ils ont entamé une purge pour cette saison de Skirmish. C'est bien, il va en falloir au moins une deuxième parce qu'il y a des chances que genre Dash, Prismoji, Reinhardt ne partent pas sur cette saison. Et c'est pour ne citer que des decks qui devraient partir parce que pour moi, ils ne sont pas forcément tout à fait au niveau de Ira, Kano, Chain et Kassai, mais ils ne sont pas très loin en termes de power level. Et genre, ils font aussi partie de cette vague de héros qui, genre, gagnent trop à être en Blitz par rapport au CC. Puis Prism, elle a toujours Luminaris, et Luminaris, c'est Turbo Broken. Mais, comme tu dis, genre, Vincent, c'est un deck qui est capable de faire des gros trucs, qui a toujours Carry on Usk. L'Empereur, c'est un deck qui perd, enfin, genre, qui n'a plus un de ses gros mauvais match-up et qui a toujours les Striders. Donc, tu as des choses qui sont toujours genre très, 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 très fortes en termes purement de flat power level, en fait. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir sous l'angle est-ce que le Blitz peut être équilibré? Parce que ce n'est pas des changements de héros qui vont le rendre équilibré, comme tu as dit, comme j'ai dit. c'est un changement fondamental du format, et on verra si LSS désire le faire ou pas, parce que je rappelle que depuis Cracovie en 2021, je crois, il n'y a eu aucun événement majeur, à part trois games de Blitz au Worlds l'année dernière, qui ont été en Blitz. Tu as eu peut-être un BH, et encore, je ne suis pas sûr. Genre, tout est en scellé et en construit, et maintenant en Living Legend. Et du coup, s'ils veulent tenir leur promesse du début que le Blitz est un des formats compétitifs du jeu, qu'il est poussé, etc., va probablement falloir qu'il fasse plus qu'une purge, ou qu'une deuxième purge pour Reinhardt, Dash et tout ça. Donc, ça, c'est le premier point. Qui est que, en vrai, le départ de ces héros-là ne change rien par rapport au problème fondamental du Blitz. Maintenant, si on prend le Blitz plus comme un format fun où on peut expérimenter des choses, etc., tu vois, et c'est là où, du coup, je disais que j'étais pas forcément trop d'accord avec toi, le fait que ces héros partent, c'est une très bonne chose, parce que de la même manière que Islander gatekeepait des choses en CC, bah, en Blitz, c'est juste le power level de certains decks qui gatekeepait des choses, parce que tu avais des stratégies qui étaient tellement fortes que ça en devenait oppressant et que tu pouvais très difficilement envisager d'autres decks. Mais maintenant, je pense qu'il y a plein de choses, pas forcément des choses très compétitives ou pas forcément des choses genre absolument cassées ou quoi, mais il y a des choses qui peuvent être expérimentées. Le fait que Kano soit plus là, ça redonne peut-être de l'espace à des decks plus défensifs et plus fatigues, comme des Teclovoson ou des Dash Control ou ce genre de choses. Datadol, c'est un héros qui a été très longtemps méprisé en Blitz. Tant que le pistol et que Dash n'est pas parti et que donc le pistol est encore légal, Datadol, pour moi, c'est un deck qui, maintenant, genre, peut vraiment faire des choses. T'as toujours, comme tu disais, la nouvelle et l'ancienne Prism, qui sont des héros qui sont intéressants aussi. T'as Yoji en deck fatigue, mais qui se fait quand même check par des choses via les mécanos et Teclovoson avec Singularity ou les Warriors avec Decimator. Donc, t'as plus de... En fait, t'as des stratégies qui sont toujours fortes, mais qui sont sur des héros et avec des cartes moins oppressantes, et qui du coup fait que leur contre peut fonctionner, ou peut un peu plus équilibrer les choses. Et moi, je pense que c'est justement, c'est intéressant, parce que le format devrait quand même se ralentir un petit peu. Déjà qu'on était plus haut, genre les games se finissent en un tour que tout le monde pense avoir, parce qu'ils ont regardé une game de Blitz quand Viscerai était légal, et qu'ils n'ont pas retouché au format depuis. Genre, le format est réellement beaucoup plus lent. Alors, il n'est pas lent, il est rapide, mais il est beaucoup plus lent que ce que les gens ont l'air de penser, parce que, bah, genre, ils ne retouchent pas au format, et du coup, ils ont des impressions d'il y a deux ans. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir tous ces héros-là partir, même si c'est dommage, parce que pour beaucoup, on y était attaché, parce que c'est des gameplays qui ne sont pas retrouvables autre part, en tout cas pour le moment. Genre Kano, il n'y a rien en Blitz qui s'apparente à Kano. Chain, il y a un peu Vincent, mais ça reste quand même différent sur la capacité à stacker ta banish, etc. Kasai, c'était un deck, même s'il y en a une nouvelle qui sort, c'était un deck qui était quand même très très particulier avec l'interaction Courage et Blood on Her Hands, et c'est pas sûr que la nouvelle rejoue beaucoup autour de cette interaction là, etc. Donc on perd vraiment des identités, mais ça laisse la place à des nouvelles. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça va permettre d'explorer sur un format qui n'est pas vraiment joué compétitivement, donc qui en plus laisse de la place à de l'expérimentation fun. Et du coup, de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose que des héros complètement broken s'en aillent et qu'ils aient choisi de faire une purge. Parce que je le rappelle, il y a des gens qui pleurent un peu en mode « Ouah, mais en deux semaines de skirmish, mon héros, il est parti. » « Ouais, mais je peux plus le jouer. » Ça fait 2 ans et demi que le héros était là. Genre 2 ans et demi. Enfin, depuis que le format existe, ouais. Ira et Kano, c'était là. Kasai, c'était là. Alors, OK, Kasai, c'est devenu relevant avec Everfest. Mais ça fait genre 2 ans et demi que le perso est là. Monarch, Chain, ça fait 2 ans et demi que le perso est là. Bah, genre, à un moment, il faut partir, les gars. C'est hop, on s'en va, et puis on prend ses valises, et puis on va en Living Legend Blitz, qu'on jouera dans 2 mois quand il y aura un format, et où on s'amusera beaucoup avec Islander, qui sera le meilleur deck du monde.
Je pense qu'on oublie surtout que le meilleur deck du format n'a pas encore été affecté. C'est évidemment Genis, What You Need.
Évidemment, un des marchands jouables dans le format.
Qui n'a pas de points. Mais... Un jour, je vous jure, je ferai des points à Genis.
Tu sais que d'ailleurs, à propos de points, un de mes plus grands regrets de ce League Legends là, c'est que je ne crois pas, et quand je dis je ne crois pas, je suis sûr à 100% que je ne vais pas avoir mon nom au Roll of Honor des canaux, parce que bah, je n'ai pas assez fait d'event.
Tu n'as pas fait gagné. Sur canaux.
Bah, je ne crois pas. Où est-ce que, quand est-ce que j'en aurais fait?
Ce qui serait énorme, c'est que tu n'aurais pas de points, mais moi j'en ai sur canaux.
Toi, tu en as parce que tu as gagné un skirmish quand je t'avais coaché.
J'ai gagné un skirmish avec.
Mais moi, je crois que j'ai genre rien gagné à part des armories.
Ouais,
donc je suis très déçu. Je suis très déçu. Donc faut que je gagne un truc en CC pour avoir mon nom quand il partira en CC dans 8 ans.
Non mais c'est comme ça que Kano, il lui suffit d'une légendaire pétée au niveau de la tête et le deck est dans l'espace. Il lui suffit d'une carte à la Aeta Wildfire et vas-y, c'est bon, tu vois, genre.
Oui, et mais en même temps, il aura toujours 30 HP
set,
et il a toujours des comptes.
Un set de support qui duplique le nombre de cartes à la Aeta Wildfire et qui te file plein de bleus et de rouges.
Après, ok, non mais si genre, au lieu de bannir une carte broken, tu en printes d'autres, évidemment que le deck va être fort. Si tu printes 3 nouveaux codex à Azalea, le deck devient turbo broken top tiers du monde. Déjà que, spoiler alert, Azalea récupère une spécialisation de folie.
Alors, ne lançons pas de débat autour de ban, voilà. Tome,
non,
ban
non,
codex.
Livre, c'est pas bon. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut ban des cartes et je vais bientôt finir pour pas partir encore pendant des heures. Mais en tout cas, je pense que ces changements pour le Blitz sont très bons et je pense aussi que ça va dans une bonne direction parce que, comme on l'a dit, ça ressemble vraiment à une purge. Et pour moi, la seule bonne raison de faire une purge, c'est d'essayer de retrouver une manière d'équilibrer le format. Et pour moi, le fait d'augmenter le nombre de skirmish et tout, c'est qu'ils ont quand même en tête le fait que le Blitz, ils voudraient que ce soit un format jouable et qu'ils puissent mettre à des events, mais qu'ils sont conscients qu'ils ne pouvaient pas actuellement dans l'état des choses. Et du coup, c'est, je pense, plutôt un bon signe et une bonne nouvelle et un pas dans la bonne direction qu'il y ait autant de départs et qu'il y ait d'aussi gros changements au niveau du pool de héros disponibles. Après, on va voir, parce que, encore une fois, ce n'est pas des changements de héros qui vont rendre le format équilibré, puisqu'il y a d'autres problèmes que ça. Donc, il suffit pas de ça, il va falloir plus de choses. Mais c'est très bien, on va pouvoir explorer des nouveaux trucs. Il y a des choses qui deviennent pour moi genre pertinentes et qui ne l'étaient pas avant d'un point de vue purement compétitif, genre jouer fatigue dans le format quand Kano existait, pour moi c'est pas quelque chose que tu avais le droit de faire, même si non mais il y a des gens qui le faisaient et ça marchait parce qu'il n'y avait pas de bon Kano dans leur armory et genre très bien tu vois, mais d'un point de vue purement compétitif et du coup avec cette idée au-delà de l'armory où genre tout le monde jouait fun et où nous ça faisait 8 mois qu'on n'avait pas vu un seul chain alors que c'était le deck le plus craqué du format. Je pense que du point de vue compétitif et du coup dans l'idée de remettre le Blitz sur des callings, de le remettre aux Worlds, etc., bah là tu peux à nouveau avoir des choses qui s'apparentent à de la fatigue ou des decks de late game comme tes Clovosun avec les armées de robots, mais du coup ces decks là se font potentiellement check par Decimator et par les Prismes qui elles-mêmes peuvent se faire check un petit peu selon les versions par des gardiens ou par des decks agressifs, etc. Et du coup tu vois genre c'est en fait comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les gros outliers en termes de power level disparaissent fait que même si les stratégies qui restent sont toujours fortes, elles sont plus sensibles à leur counter. Là où tu vois genre Kanos qui est censé le counter théoriquement, tu pouvais toujours l'eye roll comme jamais parce qu'en face ça avait 20 points de vie et que tu tuais sur n'importe quelle combinaison de 2 cartes dans l'ordre dans ton deck. Et ça n'arrivera plus. Tu vois, genre Chain, c'était censé être faible face à la disruption et tout. Bah, à part si tu piochais Warmonger, en fait, t'étais Azalea ou Bravo, tu mettais un gros Crush Dominate là, et puis tu prenais un Carry on Husk, et puis tu faisais. Ah bah, dommage. Et ça, bah, il y a encore un peu Vincent, mais Vincent, c'est un deck qui est moins sensible, ou moins supposé être sensible à la disruption que Chain, parce que c'est plus midrange. Donc, c'est OK. Et tu vois, genre, ces trucs qui vont être plus, je pense, plus sympas à explorer et à vivre. Ouais. Quand Reinhardt sera parti et que tu te feras plus au TK tour 1 si t'as pas de bloc sur tes équipements.
Ouais. Et sur ce, à mon avis, on va conclure. Parce que ça a l'air.
Tu veux conclure ?
Ça fait une heure et quelques qu'on parle.
Tu veux conclure avec Nightcrash ? Je comprends.
Ouais. Ah oui, ça a l'air bien ça. Non, mais je suis chaud, ouais.
Allez.
Non, mais sur ce, merci de nous avoir écoutés, évidemment.
Fuck Faye.
N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a sortie d'Ectech de Dromai avec Whis, voilà, qui m'a raconté son tournoi et tout, c'était très cool. Et bah, on vous dit à une prochaine pour plus de choses et de bidules et tout ce genre de trucs. Salut tout le monde.
Je coupe complètement l'effet de PDPew avec son salut tout le monde, mais dernière info hyper importante. Si vous prévoyez de vouloir participer à la ligue qu'on a lancée, la ligue interboutique là, qu'on a lancée avec Emilien, n'hésitez pas à nous le faire savoir, communiquer sur le channel en question, sur le Discord France, enfin sur le channel tournoi, etc. Pour bah, que nous on ait de la visibilité sur qui participe et qui est intéressé. N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent pas forcément ultra bonnes, ultra pertinentes à nous faire des retours. On changera probablement pas pour cette édition, mais si ça marche et qu'on a des retours constructifs, on changera peut-être pour une prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire savoir lorsque vous êtes allé voir votre boutique pour organiser un qualifier, que la boutique montre de l'intérêt, voire même fixe une date. Pareil, à nous le dire, à nous le faire savoir, parce qu'il y a peut-être des gens qui hésitent et qui se disent « Ah, bah, il y a l'air d'avoir genre deux boutiques, on va pas le faire », alors qu'en fait, il y a 8 boutiques, et avec 8 boutiques, bah, ils ont beaucoup plus envie de venir participer aussi. Donc, n'hésitez pas à en parler et à faire vivre le truc aussi pour faire un effet un peu boule de neige, parce que bah, ce serait sympa qu'il y ait le plus de gens possible. Nous, c'est un truc sur lequel on va mettre du temps et on va essayer d'avoir un truc sympa pour les joueurs et les joueuses qui participent. Mais encore une fois, c'est le genre de projet où bah, si personne se motive, ça n'aura pas lieu malheureusement. Et si ça n'a pas lieu, bah, à un moment donné, que ce soit nous ou d'autres gens, il n'y aura plus de projet qui verra le jour si à chaque fois qu'il y en a un, personne ne suit. Alors que la communauté est toujours en demande de trucs compétitifs, de trucs pour s'entraîner, de trucs pour jouer. Bah, si quand on leur propose, ça ne suit pas, c'est dommage et on arrêtera de faire des choses. Donc si ça vous tente, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, faites-le nous savoir. Communiquer dessus et pousser vos boutiques à faire un qualifier pour pouvoir participer après et la représenter. Voilà.
Sur ce, salut tout le monde.